Bonjour à tous. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Hein? Et elles se renouvellent pour nous ce matin, dans ces temps que nous passons en sa présence. C'est un renouveau que le Seigneur nous donne. Amen. Le sacerdoce universel. On n'a pas fini avec ça. Et je voudrais vous en parler encore ce matin. On relit le texte qui nous encourage dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 5 et 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Pour ceux qui sont de passage ou qui viennent pour la première fois ici, depuis plusieurs mois, déjà nous parlons de ce point important que nous trouvons dans la Nouvelle Alliance, à savoir que nous sommes tous sacrificateurs. C'est le royaume que Dieu a créé en envoyant son Fils Jésus-Christ, qui a été le précurseur pour nous du modèle de ce qu'est le sacrificateur. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, c'était réservé à une seule tribu et à quelques personnes au milieu de cette tribu. Aujourd'hui, tous les enfants de Dieu sont appelés à être sacrificateurs. Amen. Je vois que ça vous réjouit énormément. Mais c'est vrai que ce n'est pas si réjouissant que ça. On l'a vu la dernière fois. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit la dernière fois ? Sacerdoce, ça rime avec sacrifice. Sacerdoce rime avec sacrifice. Alors, voilà, quand on vous dit vous êtes tous sacrificateurs, on a tendance à lever le torse. Ah. Puis après, ça rime avec sacrifice. On avait terminé cette étude de la dernière fois en disant, en rappelant cette parole que Jésus a donnée à Pierre, « Tu seras pécheur d'homme ». On doit, comme Jésus a sacrifié sa vie pour le salut de l'humanité, nous devons aussi sacrifier nos vies, non pas pour une religion, non pas pour un homme, non pas pour une église, mais pour le salut de nos prochains. C'est ça la motivation des sacrifices que l'on fait. Ok ? Vous êtes tous d'accord avec ça, je le vois ce matin. On va lire ensemble ce qui va fonder notre étude de ce matin. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Un texte extraordinaire que vous connaissez tous sans avoir ouvert votre Bible. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il leur eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Il y en a qui cherchent le bonheur. Hein. Le Seigneur, il nous dit comment être heureux. Là. Si vous pratiquez ces choses, vous êtes heureux. On n'aurait pas pensé à ça hein, pour le bonheur, hein, de laver les pieds des autres. On aurait pensé avoir une belle voiture, toucher un peu plus d'argent, etc. On a des définitions du bonheur qui sont très matérialistes et très charnelles. Mais le Seigneur veut nous amener à un bonheur spirituel. Comme on l'a vu, et comme on le répète dans cette étude, Christ est le souverain sacrificateur qui devait venir. Amen. Il est de toute éternité de toute façon. Hein. Et on l'a vu, sacerdoce égale sacrifice. Aujourd'hui, nous allons voir sacerdoce égale service. Dans Matthieu chapitre 20, verset 28, Jésus dit ceci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Premier point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est que le sacrificateur est quelqu'un qui est au service des autres. Dans l'ancienne alliance, pardon, il demeurait dans le temple et il attendait que le peuple vienne amener les offrandes. Et c'est lui qui était chargé de prendre l'offrande et de la brûler sur l'autel. Il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour celui qui l'amenait. Il était au service, malgré qu'il ait un rôle important, malgré que sacrificateur, waouh, une fois par an, il pouvait rentrer dans le lieu très saint. Waouh, quel personnage extraordinaire. On était en admiration devant le sacrificateur. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait toutes ses journées? Parce que ça, c'était une fois par an. Hein. Mais toutes ses journées, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait pour les autres. Il portait des sacrifices pour les autres. Apprendre que nous sommes tous sacrificateurs, c'est gratifiant. Mais c'est aussi quelque chose qui nous rappelle que nous sommes au service de notre prochain. Jésus, tout souverain sacrificateur qu'il est, ne se met pas au-dessus des autres, mais il se met à leur service. Jésus, en tant que souverain sacrificateur, ne vient pas juger le péché, mais il vient le laver, le nettoyer, le faire disparaître. C'est l'image que nous trouvons dans cet acte de Jésus qui se baisse et qui lave les pieds de ses disciples. Si Jésus venait dans sa toute puissance, sa grandeur, devant le péché, qu'est-ce qu'il ferait? Il éliminerait. Il jugerait. Ok? Mais Jésus a dit lui-même, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils, c'est Jean 3, 17, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Ce Jésus, Fils de Dieu, qui est tout puissant, aurait pu venir écraser les hommes pécheurs, mais il vient pour les relever. Amen. On retrouve cette même logique que dans Matthieu 20, 28. Il n'est pas venu pour être servi, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour servir, il est venu pour sauver. Ce qu'il fait là à ses disciples, et à un moment donné, il dit à Pierre, pour l'instant, tu ne comprends pas ce que je fais, mais bientôt, tu vas le comprendre. Et il ne faudra pas longtemps, hein, puisque c'est le lendemain que Jésus va mettre en action dans le monde spirituel cette symbolique. Évidemment que quand vous prenez un linge et que vous lavez les pieds de quelqu'un, vous ne lui enlevez pas ses péchés. Hein. Ce serait bien. Ça aurait été plus facile pour Jésus. Hein. Mais pour pouvoir effacer les péchés, il fallait mourir à la croix et verser son sang. Lui, qui n'était sans péché. Qui était sans péché. Amen. Et c'est ça que Pierre va mettre du temps à comprendre, mais il va le comprendre quand même. C'est pas venu tout de suite. Ils ont été plutôt en panique quand ils ont vu Jésus mourir sur la croix, être arrêté, etc. Mais ils vont comprendre ensuite ce qui s'est passé. Peut-être certains se sont souvenus de ce que Jésus avait fait ce soir de Pâques, en leur lavant les pieds à tous. Ce qu'il fait là préfigure ce qu'il va bientôt faire d'une manière concrète le lendemain, en offrant sa vie sur la croix pour le pardon des péchés. Comme les sacrificateurs allaient brûler l'offrande pour le pardon du peuple, des membres du peuple qui venaient vers eux, Jésus, lui, va brûler l'offrande. Mais l'offrande, c'est lui. C'est lui qui s'offre sur la croix. Je donne souvent cette image. Alors que toi, tu devais être condamné, il est ton avocat qui a dit au juge, Dieu, non, non, ne le condamne pas lui. La condamnation qu'il devait avoir, tu la mets sur moi. C'est moi qui vais la prendre. J'étais condamné à mort à cause de mon péché. Et Jésus a dit, non, ce n'est pas lui qui va mourir, c'est moi, à sa place. Amen. Et par lui, j'ai la vie. Amen. Je suis gracié. Je suis gracié. Amen. Alléluia. Je pense à ces... Je suis aumônier de prison, vous le savez. Je pense à ces détenus qui font des démarches, toutes sortes de choses pour pouvoir sortir de prison. Ils font des dossiers, etc. Ils vont passer devant des commissions, des juges, des psychologues, des psychiatres. Et puis un jour, il y a un président de la République qui vient d'être élu et dit « Allez, je te gracie. » Pof, en une seconde, son affaire est réglée. Vous vous rendez compte? Et vous voyez le détenu dire « Oh ben non, je préfère faire mes dossiers. Je préfère le mériter, quoi. » Non. Mais parfois, on est comme ça. Hein. On a du mal avec la grâce. On en fait des choses, on en fait des efforts. Et Jésus, lui, sur la croix, alors qu'il donne sa vie en quelques heures, il règle le problème. Définitivement pour l'humanité. Amen. Il va se baisser, verset 5. Jésus verse de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. Je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part. Une autorité qui s'abaisse. Vous avez déjà vu ça ? Vous avez vu des rois qui s'abaissent, des présidents de la République qui s'abaissent ? Vous avez vu des chefs d'entreprise qui s'abaissent devant leurs salariés ? Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. C'était une coutume. C'est pas un geste au hasard que Jésus fait. Il reprend une coutume qui existe où quand on recevait des invités, on devait leur laver les pieds. Vous savez qu'à l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées. Les gens marchaient en sandales et quand vous aviez marché, ben, vous aviez les pieds sales. Vous avez déjà marché en sandales dans la terre ? Voilà. C'est pas terrible le soir quand vous rentrez. Hein. Et c'était un esclave qui venait vous nettoyer les pieds. Je ferai trois remarques par rapport à ça. La première, c'est qu'en faisant cet acte, Jésus se met en position d'esclave. Vous savez, le mot serviteur, il est gentil. Hein. Mais quand vous lisez dans l'original, le grec, c'est doulos. Ça signifie domestique dans l'interprétation la plus gentille. Mais normalement, c'est littéralement esclave. Et quand je dis on est appelé non pas à être servi, mais à servir comme le Christ, on est appelé à être esclave. Jésus se met en position d'esclave. Il enlève ses vêtements. Et il n'a plus que la tenue qu'on mettait sous les vêtements, et c'est la tenue des esclaves. La deuxième remarque que je veux faire, c'est que Jésus, pour pouvoir laver les pieds des disciples, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Ben, il se met à genoux. Jésus se met à genoux pour nous. Jésus se met à genoux pour nous. Et la dernière remarque que je veux faire, c'est que Jésus, il ne vient pas faire ce geste pour leur dire « Ah, vous avez vu comme vous avez les pieds sales ?» Non, il vient pour les nettoyer. Jésus nettoie, Jésus enlève. Il ne pointe pas l'impureté. Il n'est pas là pour nous rabaisser, pour nous accuser. L'accusateur des frères, ce n'est pas Jésus. Hein. Vous savez qui c'est l'accusateur des frères ? C'est le diable. Ne nous laissons pas accuser si nous sommes au bénéfice du sang de Jésus-Christ. Deuxième point que je voudrais voir, c'est que le sacrificateur met l'homme devant son état de pécheur. Jésus, en faisant cet acte, vient rappeler aux disciples que même s'il les envoie, qu'il va les envoyer dans la mission, qu'ils vont devenir des gens importants dans son plan pour instaurer l'Église, instaurer le réveil, etc. Il faut qu'ils se rappellent, vous savez, c'est ce qui nous aide à rester serviteurs, qu'ils sont pécheurs. Versets 6 à 10, on relit ces versets. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre, là, il comprend et lui dit, « Non, pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Pierre est gêné par cette situation, on peut le comprendre. Est-ce que vous comprenez Pierre ? Et Jésus qui s'abaisse, même je pense sans parler de Jésus, hein, si l'un d'entre nous se levait et venait devant vous pour vous laver les pieds, vous diriez, « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» C'est gênant. Hein ? Et là, c'est Jésus. Alors c'est encore plus gênant. Ça fait penser à Jean-Baptiste. Hein ? Quand Jésus vient dire, « Tu vas me baptiser. » « Quoi ? Moi ?» Et Pierre était coutumier du fait. Hein. Il n'aimait pas ce que faisait Jésus. Et ce qu'il racontait Jésus, ça ne lui convenait pas souvent. Hein. Quand Jésus lui dit qu'il va mourir, qu'il va être livré, etc., il dit, « Ah, Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. » Ça, c'est Pierre. On aura l'occasion d'en reparler le mardi soir. Ici, le refus est motivé par le fait que Pierre est gêné par la situation, comme on vient de le dire. Mais parfois, quand nous présentons le salut aux gens, on voit un refus. « Non, non, je n'ai pas besoin que tu me laves les pieds. J'ai pas besoin. Moi, je ne suis pas pécheur. Ils ne sont pas sales, mes pieds. Je ne suis pas pécheur, moi. » Et nous pouvons nous heurter à des refus quand nous venons offrir le pardon des péchés au travers de Jésus, hein, pas au travers de nous, bien sûr. Mais nous pouvons insister, parce que Jésus insistera devant Pierre. Et Pierre va finir par dire qu'il veut encore plus que ce qui lui a été dit. Après, si en insistant, on voit que les gens ne veulent pas, on n'a pas à forcer les choses. C'est à l'homme qui reçoit le message de l'Évangile d'accepter d'avoir besoin d'être lavé et purifié. Nous ne pouvons pas laver et purifier, amener les gens à être lavés et purifiés par le sang de Jésus contre leur gré, on est d'accord avec ça. Concernant notre réaction vis-à-vis de ce que Jésus vient faire auprès de nous, et j'aimerais le dire peut-être à quelqu'un qui n'a pas encore accepté ce pardon des péchés venant de Jésus, venant de la croix. Jésus dit une phrase qui doit nous interpeller à Pierre, « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas avoir de part avec moi. » On en parlait avec les ados au samedi, c'est jeudi qu'on s'est vu. On a parlé de la repentance. C'est le premier message qui a été proclamé sous la Nouvelle Alliance. C'est Jean-Baptiste qui a commencé et Jésus qui a continué. Et puis après, les apôtres vont continuer également. La repentance. Sans la repentance, sans reconnaître que tu es pécheur et sans accepter que Jésus te lave et te purifie, tu ne peux pas avoir de part avec lui. Parce qu'il ne peut pas avoir de part avec le péché. Et tu es pécheur. Tous nous sommes pécheurs. Tous. Il n'y a pas un homme, l'apôtre Paul nous dit, pas un homme sur terre, même ceux qui ont été béatifiés, sanctifiés, tout ce que vous voulez. Aucun n'est parfait. Personne. Et on a tous besoin d'être lavés et purifiés de nos péchés. Nous qui avons déjà accepté Jésus, qui sommes là ce matin, qui fréquentons l'Église, on ressent toujours ce besoin. Oui ou non ? Et moi, je t'invite, toi qui peut-être viens pour une des premières fois, toi qui peut-être n'as pas fait cette démarche de dire « Oui, je reconnais que je suis pécheur », à le faire, parce que tu pourras avoir part avec Jésus-Christ. Amen. Ne continue pas à dire « Je suis chrétien » juste parce que tu as été baptisé enfant, juste parce que tu as adopté une religion. Ce n'est pas ça qui te donnera d'avoir une part avec lui. Ce qui te donne d'avoir une part avec lui, c'est qu'il est mort sur la croix et qu'il t'a lavé et purifié de tes péchés. Amen. Le troisième et dernier point, le vrai sacrificateur est celui qui imite Jésus. Peut-être depuis le début de cette étude, vous dites, voilà, sacrificateur, c'est quoi ? Ouais, il faut aller regarder dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que faisaient les sacrificateurs ? Bon, c'est vrai, c'est intéressant. Mais en fait, l'Évangile, c'est simple. Tu veux être sacrificateur ? Tu as le modèle du souverain sacrificateur, Jésus. C'est pour ça que j'encourage ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu la Bible, ne commencez pas par le début, commencez par les Évangiles. Parce que dans les évangiles, vous avez l'exemple de Christ et vous avez l'enseignement du Christ. Et c'est la base. Et c'est de là que vous saurez ce qu'est un sacrificateur, selon la Nouvelle Alliance, le modèle parfait du sacrificateur. On lit les versets 12 au verset 17. « Après qu'il leur eut lavé les pieds, qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. » Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Nous sommes réellement sacrificateurs lorsque nous imitons Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous sommes sacrificateurs lorsque nous imitons Jésus. Nous, quand nous voulons imiter Jésus, nous voulons avoir des pouvoirs surnaturels. C'est vrai, hein ? Ou on voudrait être parfait. Dire, ah, tous mes défauts, Seigneur, tu les enlèves. Mais la première chose qui nous est demandée, c'est d'être serviteur, de nous abaisser pour le salut de ceux qui nous entourent. Amen. Ne nous mettons jamais au-dessus de celui qui nous a envoyés. D'accord ? On l'a vu le mardi soir, le mot « envoyé », c'est le mot « apôtre ». Et nous sommes, on pourrait dire, sacrificateurs, apôtres, envoyés de Dieu vers les nations pour leur parler du salut. Et au verset 17, il est dit, mettre en pratique ces choses, c'est le secret du bonheur. Et c'est ce qui va permettre aussi l'unité entre nous. Se laver les pieds les uns aux autres, ça crée des liens. Si vous avez lavé les pieds à quelqu'un, il vous est redevable, oui ou non ? Et si on se lave les pieds les uns aux autres, comme le dit Jésus, hein, bien on sera redevable les uns des autres. Quand vous allez plus loin au chapitre 13 de l'évangile de Jean, on lit ceci au verset 34 et verset 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Mais Jésus, il n'a pas lu l'Ancien Testament. C'est déjà écrit dans l'Ancien Testament, aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain. C'est pas écrit, oui. Pourquoi il dit « Je vous donne un commandement nouveau » Pardon? Exactement. Maintenant, il a donné un modèle. C'est plus selon l'Ancien Testament, c'est selon le modèle de Christ. Christ qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. On rentre dans une autre dimension là, que simplement dire « je t'aime ». Est-ce que je suis capable de donner ma vie pour les autres ? Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet amour que nous avons les uns pour les autres, le fait qu'on se lave les pieds les uns les autres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je m'aperçois que mon frère ou ma sœur a péché, qu'est-ce que je fais ? Je m'empresse de courir et le dire à tout le monde. « Oh, t'as pas vu ce qu'il a fait ? Lui qui se dit chrétien. Oh. » C'est pas ça, hein, prendre le linge et laver les pieds. Prendre le linge et laver les pieds, c'est prier pour son frère, sa sœur qui s'égare. Aller le voir en tête à tête et le gagner, comme Jésus le dit dans Matthieu 18. Le gagner, le ramener sur la bonne voie. Amen. Et en tout amour, sans jugement. Parce qu'on sait que nous pouvons nous égarer, nous, un jour aussi, et qu'on sera heureux d'avoir un frère, une sœur qui ne nous condamne pas, mais qui vient nous voir et qui nous aide à nous relever. Aimer comme il nous a aimés, c'est prendre un linge et se laver les pieds les uns des autres. Et Jésus dit ceci, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » On est dans l'année de la moisson, vous vous rappelez ? C'est un formidable outil d'évangélisation, l'amour qu'il y a entre les frères et sœurs. Je vous assure. Une des choses qui frappe les gens qui viennent dans les églises, c'est l'amour, les relations qu'on a les uns avec les autres. Et c'est pour cela qu'on doit y veiller. On doit y veiller d'une manière sérieuse, une manière attentionnée. Veillez à ce qu'il n'y ait rien entre chacun de nous. Que les relations soient paisibles. Que le pardon soit accordé à chaque fois qu'il est nécessaire. Et que nous cultivions vraiment cette unité, cet amour. Parce que c'est un moyen d'évangélisation. Amen. Et si on veut que les âmes soient sauvées, il faut d'abord que nous, on pratique ces choses au milieu de nous. Et ça va devenir tellement ancré en nous, vous savez, les gens aussi vous regardent. Les gens regardent nos réactions. On a des témoignages, et j'ai fait des camps d'ados pendant des années, et combien je souffrais à chaque fois quand j'ai eu des ados punk. Ceux qui sont un peu plus vieux ont connu ce que c'était les punks. Et vous voyez quelqu'un arriver avec une crête comme ça, des piercings partout, des vêtements à moitié déchirés, il arrive comme ça. Ben, nous, on l'accueillait dans le camp d'ado. Hein. Seulement, quand vous parliez avec la jeune fille en question, elle vous disait, moi, quand je vais à l'église, tout le monde me regarde de travers. Elle n'avait plus envie d'y aller. Ouais. Cette attitude de se laver les pieds les uns des autres va nous donner une mentalité pour accueillir ceux qui viennent de l'extérieur et qui ne sont pas comme nous, qui sont d'ailleurs, entre parenthèses, rejetés partout où ils vont dans notre société. Et si, quand ils arrivent dans l'église, ils sont aussi rejetés, mais c'est la fin du monde, excusez-moi. Si celui qui a été rejeté de tous les hommes arrive ici, il est à nouveau rejeté, alors c'est terrible. Non ? Vous êtes d'accord ? Il faut que le Seigneur change nos cœurs, hein ? Nos mentalités, notre état d'esprit. Est-ce qu'on est prêt à accueillir tout le monde ici ? Tout le monde. Même les plus grands des pécheurs. Est-ce qu'on est prêt à les accueillir ? Ouais, je suis d'accord avec toi, Marc-Élie. On veut accueillir tous parce que Jésus a accueilli tous. Il a d'ailleurs été critiqué. Il a été critiqué par les religieux parce qu'il a accepté d'être en compagnie des pécheurs. On n'a pas plaisir d'être en compagnie du péché. Mais on aime le pécheur. On aime les hommes, quels qu'ils soient. Parce que nous aussi, nous sommes pécheurs. Nous aussi, Jésus, il nous lave, il nous a lavé les pieds. Et il le fait régulièrement. Et nous, on va regarder les autres en disant « Oh, celui-là, oh !» Que le Seigneur nous aide vraiment pour cette année de la moisson à être une église qui accueille une personne, quelle qu'elle soit. Encore cette semaine, on recevait avec Valérie une personne qui a dit « Mais je suis étonné qu'on s'intéresse à moi. » Les gens qui souffrent, qui sont rejetés de partout, qui ne se sentent pas accueillis. On a besoin d'être sensible et d'aller vers ces personnes, de les accueillir. Amen. Avec l'amour que Dieu nous donne. Pas avec nos efforts, pas avec nos... Vous savez, il y a plein de gens qui font de l'humanitaire et tout ça, c'est très bien. Mais là, c'est au-delà. C'est l'amour de Christ qui vit en nous. Je conclue. La position à genoux de Jésus, c'est la position de l'intercesseur. Intercéder, littéralement, ça veut dire se mettre entre. Jésus est l'intercesseur suprême parce qu'il s'est mis entre Dieu et nous, pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur nous, mais elle tombe sur lui. Vous avez déjà vu dans des films, hein, quelqu'un qui est « Ah, je tire sur Élodie » et Johan, son mari qui l'aime, va se mettre devant oh, « c'est lui qui prend la balle ». Vous avez vu ce genre de scène ? Mais c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus fait. La colère de Dieu devrait nous atteindre à chaque instant à cause de notre péché. Et Jésus s'est mis entre pour que cette colère ne nous atteigne pas. Et c'est lui qui a pris sur lui cette colère. Il est l'intercesseur suprême. Amen. Et nous avons, nous, ce rôle aussi de nous mettre à genoux pour prier pour les perdus. Nous n'avons plus besoin de mourir à leur place. Jésus l'a fait. Mais on a besoin de prier pour que ces hommes, ces femmes qui nous entourent et qui ne connaissent pas Dieu puissent le rencontrer comme leur sauveur. Amen. Importance de la prière. La prière fait partie du sacerdoce. Nous le verrons la prochaine fois. Ce sera la 8e étude sur le sacerdoce universel. L'importance de la prière. Le sacrificateur est un intercesseur. Il apporte l'offrande, il la met sur l'autel pour apaiser la colère de Dieu. Et nos prières apaisent la colère de Dieu. Amen. C'est quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Vincent de Paul, qui était un prêtre il y a plusieurs années en arrière, au XVIIe siècle, je crois. C'était un peu en plus fort encore l'abbé Pierre de l'époque. Quelqu'un qui a eu souci de s'occuper des délaissés, des malades. Il a été à l'origine de la création des premiers hospices et certains hôpitaux à Paris. On les doit à cet homme, Vincent de Paul. Et il a dit ceci: l'amour ne peut pas demeurer oisif. Il nous applique au salut et à la consolation des autres. Amen. On ne peut pas rester tranquille, les doigts de pied en éventail, sur notre canapé, quand on sait qu'autour, des gens souffrent et des gens sont perdus. Ok ? Ça, c'est le sacrificateur. Ça, c'est le modèle du sacrificateur. Jésus ne prenait pas de repos. Jésus était capable de passer des journées pleines à s'occuper des pécheurs. Et encore, le soir, il passait une partie de la nuit en face à face avec son Père. Il n'est pas resté oisif face aux besoins, aux foules sans berger. Il était ému de compassion. Et cela a fait de lui le plus grand des intercesseurs. Amen. On va prier ensemble. On va demander au Seigneur encore de nous aider. Seigneur, nous prions. Cette image et cet exemple que tu nous donnes en lavant les pieds de tes disciples, c'est quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, toi qui es si grand, tu as accepté de faire cela. Seigneur, qui sommes-nous pour dire que nous n'aurions pas à le faire? Seigneur, donne-nous encore une plus grande humilité. Donne-nous une mentalité de serviteur. qu'on soit ces sacrificateurs, serviteurs dont tu as besoin pour le royaume. Merci Seigneur de nous garder dans l'unité, de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, afin que tous autour voient que nous sommes tes disciples, que tous autour voient ce que tu es capable de faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Merci Seigneur. Merci de bénir si quelqu'un ici au milieu de nous n'a pas encore pris part avec toi, qu'il accepte ce matin que tu lui laves les pieds. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous encore ce matin. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire.